剧。
Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de Une promesse de Sorge Chalandon, paru aux éditions Grasset. Sorge Chalandon est un journaliste à Libération et il a obtenu le prix Albert Londres en 1988. Une promesse est son deuxième roman. Il y élabore une langue originale, inventive et sensible, qui participe au climat de mystère qui baigne son récit. En voici le début. La visite de Léo à Étienne et Fauvette.
La visite, murmure Étienne Pradon.
Fauvette ne répond pas. Assise à la table au coquelicot, elle remplit ses grilles, des lettres, de case en case, jusqu'à en oublier le temps. Lorsqu'elle est dans son jeu, Fauvette n'écoute rien de la maison. Ni les pas de son mari dans le couloir, ni la petite horloge suisse, ni leur silence, ni aucun des bruits du dehors. Étienne marche vers la penderie. Il dit que la veilleuse du grenier vient de s'éteindre, qu'il faut remplacer l'ampoule, qu'il doit en rester une neuve dans le carton d'électricité. Il parle comme ça, tout haut, pour lui seul, comme à son habitude. Puis il s'arrête contre la porte et se tourne vers elle en disant « La visite !» Fauvette Pradon lève les yeux. Elle observe son vieil homme. Il a son front de peine, ses rides profondes, ses paupières lourdes et la bouche en souci. Elle enlève ses lunettes, les laisse retomber au bout de leur cordon. Elle penche la tête. Elle l'entend, à son tour, un pas traînant qui vient sur le gravier. Léo Mottier. Il racle ses semelles sur les marches humides. Il est devant la porte. Il tousse. Il tire le cordon qui entraîne la cloche de l'entrée. Un coup furtif, respectueux, un timbre de politesse. Étienne ferme les yeux. Il s'est adossé au mur, sur le perron de Kerael. Des chaussures familières froissent trois pas. Maintenant, Léo doit reculer pour regarder la façade, les volets clos, l'entrée du jardin, la remise et sa fenêtre cassée. Il doit être main sur les hanches, la casquette de travers, la cigarette éteinte au coin des lèvres.
« Il va frapper, » murmure Étienne.
Léo frappe deux coups sur la porte de son doigt replié. Il attend un peu. Fauvette remet ses lunettes et reprend son jeu. « Niche pour chien », demande la définition. 9 lettres. Elle fait rouler son crayon entre ses doigts, mâchure les marges de petits mots d'essai. pose la pointe sur les cases une à une, laisse en trace un piqué de graphite comme une virgule inquiète. Elle a trouvé péril pour grand danger, radieuse pour rayonnante, mais pas de niche pour chien. Derrière la porte, Léo tousse encore. Il repart. Ses talons ferrés sur les marches, le gravier, la barrière qui se referme, grince et puis claque. On l'entend qui relève son vélo. Il monte en selle, grelotte un coup de sonnette, crisse trois coups de pédale et s'en va. « C'était Léo, » dit Étienne. Il reste adossé au mur, à l'autre bout du couloir, dans un recoin d'obscurité. Il observe sa femme. Il a le cœur serré. Ce soir, il la trouve plus pâle et ses cheveux plus rares. Nous sommes en plein été et elle a sa peau de novembre. Fauvette, son jeu, ses mains fripées de brun, la toile cirée au coquelicot. Elle laisse aller son regard de fleur en fleur jusqu'au bout de la table. Son mari entre au salon, marche jusqu'au buffet et prend le livre des visites. Il regarde la petite horloge suisse. 6h06, dit-il. Il tire sa chaise sur les tomettes, pose le cahier bleu sur la table, l'ouvre, prend un stylo dans son gilet et met ses lunettes. Mardi 4 août, 18h06, écrit Étienne. Léo Mottier a sonné la cloche deux fois et frappé la porte deux fois. « Tu as trouvé une ampoule pour la veilleuse ?» demande Fauvette. Étienne secoue la tête. Elle se lève, va dans la penderie, prend un carton sur l'étagère et le pose sur le guéridon de l'entrée. Elle cherche, au milieu des vieux fils et des culots de lampes ourlés de brun. Elle relève la tête. Elle a trouvé une ampoule à vis, ovale et torsadée. Elle la pose sur la table, devant son mari, et retourne à sa chaise. « Voilà ton ampoule, » dit-elle. Étienne observe Fauvette. Elle tapote une case, mordit son crayon, niche pour chien. Elle a son air fourbu, sa ride de joue qu'elle appelle fossette, son sourire de paix lasse. C'est 3 ans après leur mariage qu'Étienne et Fauvette ont acheté Keraël. Longtemps, Étienne a cherché une maison orientée à l'ouest, avec un grenier et une fenêtre haute, dégagée, sans obstacle jusqu'à l'horizon. Une fenêtre que l'on puisse voir de loin. Une fenêtre qui soit connue du ciel, disait-il. Keraël s'appelait la Foucaudière, du nom d'un ruisseau qui coule plus au nord, près de Saint-Loup-du-Gast. Une belle maison, juste à l'entrée du bourg, avec un grand salon, une cheminée ancienne, une chambre à l'étage, une alcôve, une remise adossée aux grosses pierres d'enceinte, un jardinet ouvrant sur la route, et un grenier. Un grenier comme il fallait pour installer la veilleuse de son père, avec une lucarne ronde, épaisse comme un sabord de muraille. La première fois qu'ils ont visité la maison, c'est dans le grenier qu'Étienne est allé tout d'abord. Fauvette était au salon, assise sur une chaise au milieu de la pièce. Elle regardait autour. Elle imaginait la commode, le buffet, la table, la toile cirée rougie de coquelicots, le bougeoir en forme de chat assis, la bibliothèque. Étienne, lui, est monté sans un mot. Il est allé au grenier. Il a posé son front contre la fenêtre, il a regardé le ciel jusqu'à l'ouest, jusqu'après la forêt, jusqu'au plus loin de tout. Il a senti monter les larmes. Il a cogné du poing contre la pierre du mur, puis est redescendu en disant que oui, il prenait la maison. « La chambre est comment ?» a demandé sa femme. « Quelle chambre ?» a demandé Étienne. Fauvette a ri. Ils ont emménagé un samedi. Le soir même, Étienne rebaptisait la maison. La Foucaudière a pris le nom de Caire à elle, un lieu dit de son enfance. Et puis, ils sont montés au grenier, installés la veilleuse devant la lucarne, et l'a rallumée, pour la première fois depuis le 20 septembre 1930, lorsque la mère d'Étienne l'avait éteinte en pleurant son mari. Fauvette n'a rien dit. Elle est restée là, bras croisés contre la porte ouverte. Elle a regardé Étienne poser la lampe contre la vitre, puis actionner l'interrupteur doré, avec plus d'émotion que s'il ranimait une flamme de triomphe. « Tu as vu le diable ?» demande le Bosco. Léo s'avance vers le comptoir, sa casquette de côté. « Qu'est-ce que j'ai ?» demande à la glace. Léo regarde le grand miroir par-dessus l'épaule du patron. Le chemin a creusé ses joues. Le col de sa chemise est ouverte et un pan de sa veste relevé. Il a le tour des yeux noirs et la peau grise. « Tu m'offres le verre de promesse, Bosco ?» Il servait déjà un vin de soif bien frais, bien blanc, bien plein, tellement que le liquide bombe au-dessus du verre. « À plat bord !» dit le Bosco en poussant le ballon. Léo trempe ses lèvres. Une fois encore, il interroge son reflet. Il le fait à la dérobée, comme ça, entre l'alignement des bouteilles. Il regarde sa tête de Léo. Une figure toute longue, toute triste, toute seule, maigre comme ses grandes mains. Il regarde son désordre de cheveux blancs, ses sourcils qui buissonnent et ses yeux presque clos. Il s'observe, la tête en arrière, les lèvres à peine posées sur le verre. Il boit, comme il se presse à la nuit lorsqu'il pousse son vélo sur le trottoir et se terre dans l'ombre à l'arrivée de phare. Il boit sans soif, sans joie, sans rien. Il repose son verre. Il regarde les tables qui bruissent. Il regarde dans la glace la partie de cartes qui se joue. Il regarde le visage grêlé de Berthevin, que tout le monde appelle l'andouille. Il regarde le dos voûté de Paradis, prêt à reprendre son gilet à la patère, à faire tinter ses clés et à sortir en criant à la triche. Il regarde aussi Martin Guitard, qui se fait appeler Yvan, parce qu'il a les idées rouges drapeaux. « Tu reviens de Keraël ?» demande le Bosco. « Oui, j'y suis passé, » répond Léo en regardant son verre vide. « Et ?»« Mais rien, j'ai ouvert la barrière, j'ai sonné la cloche et j'ai frappé la porte plusieurs fois. »« Tu n'avais pas pris de clé ?» « Non. Tu aurais pu faire un tour à la cave. »« J'aurais pu. » Léo répond au Bosco comme ça, machinal, en regardant les bouteilles, et un peu les tics de l'andouille, un peu la casquette de Paradis, un peu Yvan, qui lit le courrier en froissant chaque page de colère ouvrière. « Quand tu dis que tu as sonné la cloche, tu veux dire quoi ? »
Léo regarde le patron. Que j'ai tiré dessus?
En réfléchissant à ce que tu faisais?
Attends, je commence à avoir l'habitude.
Réponds à ma question.
C'est quoi ta question?
Tu as tiré la cloche sincèrement ou juste pour venir me dire que tu l'avais fait?
J'ai tiré la cloche comme s'ils allaient m'ouvrir.
Alors c'est bien, dit le Bosco.
Léo tend son verre. Il le tient par le pied. Il a soif. L'été lui coule dans le dos. Le vélo, la matinée, la pluie, tout ce temps passé en sueur aigre.
Le Bosco verse.
Il regarde Léo regarder le vin. Il repose la bouteille derrière le comptoir, puis prend son torchon et soulève la tablette qui mène à la salle. Il marche vers la partie de cartes, essuie une table vide, une chaise. Il fouille dans son tablier, pose un cendrier vide sur le plein et regarde Berthevin qui abat un valet.
On m'a dit que tu avais entendu un bruit à Keraël la semaine dernière.
Un bruit, oui, dit Berthevin en levant les yeux.
Quelle sorte de bruit?
Je sais pas, un bruit dedans.
Léo quitte le comptoir, son verre à la main. Il tire une chaise et s'assied à la table.
Un bruit de quoi? Demande le Bosco.
De pas? De voix? Comme quand il y a des rôdeurs?
Non, un bruit comme quand il y a du vent.
Du vent?
Ou des feuilles mortes, des chuchotements, quelque chose comme ça.
Tu es entré?
Ben oui, pour voir.
Et rien? Tu es allé à l'étage?
Non.
Au grenier, à la cave?
Non.
Je me suis juste arrêté au salon.
Et il n'y avait rien de dérangé.
Non.
Tout était en place.
Oui, je crois, je ne me suis pas attardé.
Le Bosco pose ses mains sur le tapis vert. Ses manches sont relevées. Ses avant-bras sont larges comme la cuisse d'un bœuf. Il se penche. Une clé de Keraël balance à sa chaîne de cou.
Il regarde Berthevin et les autres joueurs. Il a les lèvres serrées, les épaules larges et lourdes, les yeux presque clos. Une cicatrice lui abîme la joue. Elle le griffe profond du coin de la bouche à l'oreille droite. Quand Lucien Pradon parle, il murmure doux. Jamais un mot de plus. Il laisse aller ses regards et ses gestes. Il écoute et se tait.
Quand il se fait Bosco, lorsqu'il est en colère, ou énervé, ou là, ou juste au bout du jour, il a son front de pierre, son regard de taureau, les mains blanches et la voix qui gronde. Il parle en détachant chaque mot, comme on s'adresse à un enfant distrait.
Et donc, c'est tout.
C'est tout.
C'était quand?
Mercredi, mon jour de visite.
On note ça? Demande Léo.
À mon avis, ça ne vaut pas la peine, répond Berthevin.
C'est encore moi qui décide, dit doucement le Bosco.
Berthevin se lève, il remonte sa ceinture, rentre sa chemise dans son pantalon.
Moi, je dis que ça ne vaut pas.
Maintenant, tu as raison. C'est toi qui vois, Bosco.
Berthevin regarde Paradis, Léo, Yvan. Il regarde aussi le jour qui s'apaise.
Allez, j'y vais, dit-il.
Il traverse la salle, fait tinter la porte, reste un peu sur le trottoir, relève le col de son blouson léger et tourne à gauche, entraînant son pas du soir.
Bon, ben, pareil, soupire Paradis.
Des deux pouces, il ajuste son pantalon aux hanches, fait claquer ses bretelles, choque ses clés, ouvre la porte et sort dans la rue pour retrouver sa mobilette. Derrière lui, Yvan s'est levé aussi. Il grogne une toux grise et remet sa casquette de toile. « Bien le bonsoir, » dit-il. Le Bosco les regarde partir. Yvan et Paradis. Yvan et sa barbiche, son caban de marine. Yvan et sa fumée en traîne. Yvan et son front abîmé. Yvan et son regard moqueur, toujours, qui défie chaque pierre grise du bourg comme un ennemi de classe. Quand c'est lui qui ouvre la porte, le carillon du bar semble enroué. Il teinte lugubre et faux. Après lui, la porte ne se ferme pas, elle claque. Sur le trottoir, il y a toujours une flaque d'eau qui guette sa chaussure, un orage qui le mouille, un enfant qui le bouscule, une voiture qui le frôle. Yvan se dit malchanceux. Yvan vit seul au milieu des complots. Le Bosco regarde Paradis, qui pousse sa mobilette pour la faire démarrer. Sa casquette de chasse à rabat sur les oreilles, son bleu, ses bottes de travail, son gilet plein de poches, sa jambe qui traîne et les dizaines de clés qui pendent à son bouton de bretelle. Paradis est monté sur sa mobilette. Yvan a tourné dans la rue. Léo Mottier et Lucien Pradon restent seuls. « Alors on fait quoi pour le bruit qu'a entendu Berthevin ? On note ou on note pas ?» demande Léo. « Toi non plus, tu n'as rien vu, rien entendu. Tu n'as rien remarqué aujourd'hui ?»«
Rien. »«
Rien du tout ?»«
Rien. »«
Pas de lumière non plus ?» Lundi, Paradis m'a dit qu'il avait vu un ray de lumière par les volets de la chambre, comme une lampe de rôdeur qui se baladait. « Non, rien. Rien du tout. J'ai tiré la cloche, j'ai frappé la porte, et c'est tout. » Le Bosco se lève lourdement, passe derrière le bar et baisse la tablette. Il prend son carnet de bord, il l'ouvre, s'accoude, lit quelques lignes, prend un crayon dans son tablier, va pour écrire, hésite, essuie un rond de verre avec sa tranche de main, regarde Léo et lui tend le carnet. Berthevin a raison pour le bruit, ça ne vaut pas le coup. Tu as qu'à juste noter ta visite d'aujourd'hui, dit le Bosco. Léo écrit, de la main gauche, tête penchée, doigts en serre d'oiseau, à petites phrases brèves, carnet ouvert sur le comptoir. Puis il le tend au Bosco, qui le range, sans lire, entre les comptes et le bottin de Mayenne. Un dernier ?
Le dernier, dit Léo en regardant dehors.
Il n'aime pas ce jour qui traîne, ce pluvieux de presque automne. Il aime que tout soit net, que le matin soit matin, le midi midi et le soir soir. Il n'aime pas ces nuits qui nausent, ces jours qui agonisent et qui filtrent au volet alors qu'il est au lit. Le Bosco hisse les chaises sur les tables. Il éteint les lumières, il pousse le verrou de la porte pour empêcher son seuil. Il va dans son réduit. Il revient avec un seau et un balai. Léo n'aime pas non plus cet instant de mouillé, la serpillière qui flaque, ce sol sans plus rien de leurs pas.
« Allez, Bosco, » dit Léo.
« Allez, Léo, » répond le Bosco en tirant le verrou. Avant de prendre son vélo, Léo regarde le ciel et enfonce sa casquette. Il se dit que la pluie n'a pas eu assez, qu'elle va revenir, qu'il faut qu'il se dépêche. Surtout, il se dit qu'il ne va pas remonter sur la selle, qu'il va pousser son engin dans la pente en râpant le mur avec sa manche. Il se dit que ce soir, il ne voit pas très droit. « Un jour, tu mourras écrasé par un trottoir, » avait ri Angèle. Alors Léo marche. Son vélo à côté. Il rentre chez lui. C'est vide. Comme Yvan, comme Paradis, comme Berthevin à qui sa femme ne parle plus depuis 5 ans. Il rentre parce qu'il le faut. Ils se regardent passer dans les vitrines mornes.
Voici pourquoi l'andouille est le surnom d'Ivan. Fauvette a son sourire en coin. Lentement, elle enlève ses lunettes et les laisse retomber au bout de leurs tresses. « Tu as entendu ?» demande Étienne. Il regarde sa femme. Dans un instant de lumière, il a cru revoir le flambant de ses cheveux. Elle lève ses yeux gris, ramène derrière l'oreille une mèche du même argent. Elle hoche la tête en posant son crayon. « Tu crois qu'il va entrer ?»«
Il devrait, » dit-elle. Distraitement, elle regarde sa définition.
« Domaine de l'andouille. » Six lettres. « Ânerie. » Elle avait trouvé la réponse bien avant que Berthevin ne passe la barrière.
C'est comme un fait exprès.
Quoi? J'ai un mot avec andouille dedans.
Étienne va à la fenêtre. Il regarde le trottoir à travers les volets clos. Berthevin est seul. Il est resté sur le seuil, la clé en main. Il n'est pas entré. Déjà, il sort du jardin. Il a laissé la barrière ouverte, il est dans la rue, il lève la tête et observe la fenêtre de la chambre, à l'étage.
« Alors ?» demande Fauvette.
« Je ne sais pas ce qu'il fait. »«
Il est dans le jardin ?»«
Non, il est dehors. Il retourne à sa voiture. »
Fauvette remet ses lunettes. Elle dessine un A dans la première case.
Berthevin est remonté en voiture. Il ferme la portière. Il se regarde dans le rétroviseur, passe une main sur son visage tout grêleux de vérole.
« Tu oublies quelque chose, Henri, » murmure Étienne.
Comme s'il avait entendu, Berthevin sort de la voiture et referme la barrière, avec précaution.
« Et voilà, » dit Étienne, alors que le moteur crachote. « L'andouille nous a fait sa petite visite. »«
Il pourra toujours leur raconter qu'il est venu, » sourit Fauvette.
Étienne va à la commode et prend le cahier bleu.
Fauvette lève les yeux. « Tu ne vas pas noter ça ?»
Son mari la regarde, le bougeoir en forme de chat assis.
Pourquoi pas? Il est venu quand même.
Venu?
Étienne fait la moue, hésite un peu, range le cahier et prend à sa place l'album au timbre rouge.
Parce qu'autrement, il n'y a plus qu'à noter chaque fois que quelqu'un passe dans la rue, continue Fauvette en se levant.
Une fois encore, le Bosco contemple le ciel. Il inspire fort. Il regarde la route qui emmène au-delà. Aujourd'hui, il a bu. Chaque vendredi, il boit. Il trinque à la promesse. Il s'en sert deux derniers quand tous s'en sont allés. Il boit parce que samedi est son jour de visite. Le samedi matin, Ivan aère Keraël. Depuis bientôt 10 mois, chaque semaine, il ouvre les fenêtres en grand pour qu'entre le dehors. Le Bosco, lui, se réserve la nuit. Une fois tout retombé, sans bruit, sans voix, sans plus rien que ses pas lorsque tout est désert. Il est le seul à entrer dans la maison au jour mort. Lucien Pradon est le frère d'Étienne, le beau-frère de Fauvette. Il a le droit. C'est lui qui a décidé de son jour. C'est lui qui a dit que ce serait très tard, à l'heure ténèbre, quand tout dort au pays. Il observe la route qui emmène au-delà. Elle tangue. Le vin soulève le trottoir et malmène les mots. Il ferme les yeux, comme ça, juste pour faire sombre, pour sentir les maïs qui frisent jusqu'à Grange-Buron, les forêts qui fougèrent, les nuages qui grisent, les ronces qui mûrent, la lumière qui palpite. Il sourit. Il ouvre les yeux. Il entre dans son café.
« Yvan, tu pourrais changer l'ampoule de la veilleuse demain ?»«
Tu verras, c'est une petite ampoule ovale. » »« Il en reste une dans le carton à électricité sur l'étagère de la penderie. » Yvan se retourne, ses cartes à la main.
« Pourquoi ? Tu crois que l'andouille ne l'a pas fait ?»«
Je sais qu'il n'est pas entré, » répond le Bosco. Il prend la boîte ronde derrière le bar, l'ouvre et sort une clé à l'anneau scié. « Il y a longtemps que j'aurais dû la balancer, » dit-il en jetant la clé dans le sac poubelle accroché au placard.
« Il a pris une clé qui ne marchait pas ?» demande Léo.
Il ne pouvait pas deviner. Léo éclate de rire. Il laisse tomber son jeu sur le tapis vert.
« Et tu lui as quand même servi le verre de promesse ?»«
3 verres, pas un. 3. Pourquoi ?
Pour qu'il ait un peu honte et qu'il me dise la vérité.
Et c'est raté. Et c'est raté. » Léo se retourne. Yvan fouillait dans le tas de cartes.
Te gêne pas, Yvan ?
De quoi ?
Tu cherchais une carte dans la pioche.
Alors Yvan prend sa pause. Il cogne légèrement la table du poing. Un poing de travailleur, d'honnête homme, bien serré, bien fermé, lourd comme une masse d'armes. Puis il fronce les sourcils et passe lentement son pouce droit sous son revers de veste. Ensuite, il se penche vers l'autre, bouche mauvaise.
« Pardon, » dit-il.
Léo le regarde. Il n'aime pas ce geste, ni ses yeux-là.
« Laisse tomber, » répond Léo.
« J'aime mieux ça, » lâche Yvan en reprenant son jeu. Il se détend, ouvre son poing, libère son pouce, laisse ses sourcils revenir à son front abîmé. Il regarde sa paire de 3. Il regarde aussi les lèvres soucieuses de Léo. Il regarde le Bosco, assis sur son tabouret d'angle. Yvan sourit, comme s'il avait vaincu.
Pour savoir qui sont vraiment les habitants de Kerael, pour savoir pourquoi un groupe de villageois a fait cette promesse et comment ils vont finir par ne pas la tenir, il vous faudra lire Une promesse de Sorge Chalandon. Les intermèdes musicaux étaient extraits de La suite d'orchestre Peer Gynt d'Edvard Grieg. Vous écoutiez Impromptu sur Radio G. Au revoir. Thank you.
Impromptu est programmé 3 fois dans la semaine sur Radio G, le mardi et le samedi à 9h10, et le jeudi à 13h. Au revoir, restez sur Radio G.